Et le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Donald Trump fait le ménage au sein de la diplomatie américaine. Il limoge son secrétaire d'État Rex Tillerson pour le remplacer par le patron de la CIA, Mike Pompeo. Tillerson n'avait plus la confiance de Trump depuis plusieurs mois déjà. Nous ferons le point à Washington avec Grégory Phillips. Et nous évoquerons avec Eric Biegala l'arrivée d'une femme à la tête de la CIA, Gina Haspel. Crise diplomatique entre Londres et Moscou. Theresa May demande des explications à Vladimir Poutine sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. Les explications de Marina Daras dans ce journal. En Syrie, l'armée turque et ses alliés encercleraient les Kurdes à Afrin. Nous rejoindrons Franck Mathevon, notre envoyé spécial à la frontière turco-syrienne. L'Italie attend toujours un gouvernement après la victoire des populistes aux élections générales le 4 mars dernier. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue se sont adressés aujourd'hui aux Européens. Un dossier préparé par notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Dans ce journal également, la situation à Mayotte avec une nouvelle manifestation contre l'insécurité et l'immigration et l'ouverture du procès du groupe dit de Tarnac. 8 militants d'ultra-gauche jugés pour la dégradation d'une ligne SNCF, c'était il y a 10 ans. Il aura suffi d'un tweet à Donald Trump pour annoncer le limogeage du chef de la diplomatie américaine. Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'État. Merci à Rex Tillerson pour ses services. Voilà ce qu'a écrit le président américain sur Twitter. Exit donc Rex Tillerson, l'ancien patron d'ExxonMobil, qui ignore d'ailleurs les raisons pour lesquelles il a été remercié. Nous sommes en ligne avec Grégory Phillips à Washington. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, Rex Tillerson entretenait de mauvaises relations avec Donald Trump.
Ah oui, c'est clair. On savait que les deux hommes étaient en désaccord sur de très nombreux dossiers, sur le nucléaire iranien. Ça, Trump, d'ailleurs, l'a confirmé ce matin, juste avant de décoller pour la Californie. On n'avait pas la même manière de voir les choses, a commenté le président américain, mais aussi sur la Corée du Nord. Tillerson avait été désavoué publiquement par son président à l'automne. Rex, ça ne sert à rien de te fatiguer à essayer de négocier avec les Nord-Coréens, avait écrit Trump. Et il y a quelques jours, quand on a appris qu'il y aurait en mai une rencontre entre le président américain et Kim Jong-un, eh bien, Tillerson était absent. Il n'a même pas été consulté. Sur le dossier du Proche-Orient, Israël-Palestine, pareil, vous savez que c'était pas Tillerson qui gérait, mais le gendre Jared Kushner. Et puis il y a eu ce précédent, cette réunion au Pentagone l'été dernier, où Tillerson avait traité Trump de débile, plus précisément de putain de débile. Le secrétaire d'État n'avait jamais vraiment démenti avoir tenu ses propos. Tout ça mis bout à bout fait que depuis des semaines, voire des mois, on se demandait à Washington jusqu'à quand Tillerson allait tenir. Et bien on a eu la réponse ce matin par un tweet, vous l'avez dit, ça paraît à peine croyable, mais c'est comme ça que ça s'est passé. À 9h ce matin, Donald Trump a tweeté pour annoncer que le chef de la diplomatie américaine était limogé. Détail, petite histoire dans l'histoire, Tillerson n'a pas de compte Twitter, c'est donc son chef de cabinet qui a dû lui montrer le message présidentiel.
Et Grégory, c'est donc le patron de la CIA, Mike Pompeo, qui prend les rênes de la diplomatie américaine. Et lui, il a de bonnes relations avec Trump.
Oui, les deux hommes s'entendent très bien. Qui est Pompeo? C'est un Californien de 53 ans, carrière fulgurante, major de promotion à l'Académie militaire de West Point, élu en 2010 à la Chambre des représentants et grand patron de la CIA depuis l'an dernier. Très proche de Trump, on pense pareil, a commenté ce matin le président américain. Et c'est donc lui, Mike Pompeo, qui prend les rênes de la diplomatie américaine à la veille d'une possible rencontre, on en parlait, entre Trump et le Nord-Coréen Kim Jong-un.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci. Alors pour succéder à Mike Pompeo à la tête de la CIA, Donald Trump a choisi une femme, Gina Haspel, âgée de 61 ans. Elle travaille au sein de l'Agence américaine de renseignement depuis 1985. Eric Biegala, bonsoir.
Bonsoir.
Gina Haspel fut notamment responsable des opérations clandestines de la CIA et elle a aussi géré une prison secrète de l'agence où des détenus ont été torturés.
Oui, Gina Haspel n'est pas tout à fait n'importe qui. Elle a été la responsable de l'un des tout premiers de ces black sites, ces sites noirs comme on les appelle à la CIA, établis clandestinement en Thaïlande en 2001-2002 et où des prisonniers d'Al-Qaïda étaient soumis à ce que l'on appelait pudiquement des techniques poussées d'interrogatoire, telles les simulacres de noyade, bref, de la torture. Des centaines d'heures d'enregistrement de ces interrogatoires thaïlandais avaient ensuite été détruits sur demande de Gina Haspel en 2005 lorsque ces sites noirs et leur torture avaient fini par devenir publics. Ce passé sulfureux était déjà remonté à la surface en 2013 lorsqu'il s'était agi de confier confirmé Gina Haspel à la tête du service clandestin de l'agence de renseignement. Finalement d'ailleurs, elle n'y avait pas été confirmée. Lors de sa nomination comme numéro 2 de l'agence l'an dernier, quelques sourcils se sont à nouveau froncés, notamment dans les rangs du Sénat. Mais celui-ci n'a pas son mot à dire concernant le vice-directeur de la CIA. En revanche, aujourd'hui qu'elle a été nommée par Donald Trump directrice de l'agence, Gina Haspel devra passer sous les fourches codines d'une confirmation de sa nomination à ce poste par le Sénat et notamment par sa commission du renseignement. Il n'est pas évident qu'elle y parvienne. Les auditions de confirmation sont en partie publiques et on peut s'attendre qu'elle y soit véritablement passée au grill, notamment par la sénatrice démocrate de Californie Dianne Feinstein, souvent la plus en pointe sur ces sujets. Bref, du beau sport en perspective.
Éric Biegala, merci. Ces bouleversements au sein du pouvoir américain suscitent l'ironie de Moscou, soupçonnée d'ingérence dans l'élection de Donald Trump. Personne n'a encore accusé la Russie d'être responsable des changements de poste à Washington. Voilà ce que se demande Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, dans une première réaction à l'AFP. La Russie, qui est aussi mise en cause dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. C'était le 4 mars dernier à Salisbury en Angleterre. Depuis, Skripal et sa fille Yulia sont dans un état critique entre la vie et la mort. Hier, Theresa May a jugé très probable l'implication de Moscou dans cet empoisonnement au Novichok, un agent innervant mis au point par les soviétiques dans les années 70-80. La première ministre britannique demande aux Russes de s'expliquer avant ce soir. En réponse, la Russie dénonce une provocation du Royaume-Uni. Nous sommes en ligne avec Marina Daras à Londres. Bonsoir.
Bonsoir.
Marina, dans son bras de fer avec Moscou, Theresa May peut compter sur le soutien des Occidentaux.
Oui, la première ministre a affirmé que le Royaume-Uni prendrait des mesures très sévères si la Russie ne fournissait pas d'explications adéquates d'ici la fin de l'ultimatum, hein, qui est ce soir minuit. Le gouvernement britannique cherche pendant ce temps-là à obtenir le soutien de tous ses alliés, hein, notamment au sein de l'OTAN, pour que les mesures de rétorsion qu'il compte mettre en place dès mercredi soient adoptées par le plus de pays possible. Parce que peu importe les sanctions que Downing Street envisage, le plus important, c'est qu'il y ait une réponse coordonnée des pays alliés et de l'Union européenne. Alors Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré qu'il avait déjà reçu le soutien de la France et de l'Allemagne, mais aussi des États-Unis. Donald Trump, qui doit s'entretenir avec Theresa May dans les heures qui viennent, a d'ores et déjà dit qu'il faisait confiance à l'enquête britannique et qu'il était prêt, lui aussi, à condamner la Russie si les faits venaient à être prouvés. Plusieurs autres leaders européens, ainsi que le secrétaire général de l'OTAN, ont qualifié l'incident de très préoccupant et ont apporté leur soutien au Royaume-Uni.
Marina Daras, correspondante au Royaume-Uni, merci. Et on apprend ce soir qu'un autre exilé russe a été retrouvé mort ces derniers jours dans des circonstances inexpliquées à Londres. Il s'agit de Nikolaï Glouchkov, 68 ans. Nikolaï Glouchkov était l'ancien vice-président d'Aeroflot, la compagnie aérienne russe. C'est un tournant dans l'offensive turque sur le canton d'Afrin, dans le nord de la Syrie. Ankara affirme que ses troupes encerclent désormais la ville d'Afrin. La Turquie, qui affirme vouloir déloger les YPG, les soldats kurdes qui tiennent le canton, et que le président turc Erdogan qualifie de terroristes, ce sont pourtant ces YPG qui ont joué un rôle décisif dans la chute de l'État islamique en Syrie. Franck Madvon, vous êtes notre envoyé spécial à la frontière turco-syrienne. Alors quels sont les éléments dont vous disposez sur l'offensive turque ?
Alors ici, il est difficile d'obtenir des informations vérifiées sur ce qui se passe actuellement en Syrie. On entend régulièrement les bombardements de l'armée turque dans le canton d'Afrin, preuve que les combats se poursuivent à quelques kilomètres d'ici. Les médias turcs consacrent toutes leurs éditions à cette bataille d'Afrin, à la télé, dans les journaux, et tous adoptent le discours officiel, le discours du gouvernement. Ils présentent les combattants kurdes YPG qui contrôlent Afrin comme des terroristes. Ils sont très proches, c'est vrai, du PKK, le parti séparatiste kurde qui mène une guérilla contre la Turquie depuis les années 80. Ces médias reprennent donc tous l'information principale de la journée donnée par l'agence d'État Anadolu. La ville d'Afrin serait encerclée. Ce qui est certain, c'est que l'armée turque a beaucoup progressé ces derniers jours. Elle a conquis de nombreuses localités dans le canton d'Afrin. On a pu entrer quelques heures dans ce canton d'Afrin avec l'armée turque et il s'agit essentiellement de terres agricoles plantées d'oliviers. C'est une zone stratégique, certes, mais ce n'est pas une zone riche. La Turquie est aidée au sol par des supplétifs syriens, les rebelles de l'armée syrienne libre, opposant à Bachar al-Assad. Des milliers d'entre eux combattent à ses côtés. Les soldats turcs et leurs alliés se trouvent actuellement dans les faubourgs d'Afrin et pourraient lancer l'offensive contre la ville à tout moment.
Alors Franck, il y a bien sûr une part de propagande dans les informations données par la Turquie.
Oui, c'est pour ça qu'il est difficile de vérifier les informations. La Turquie tient la presse internationale à distance et les médias turcs soutiennent pour la plupart le président Erdogan qui a lancé en janvier cette opération baptisée Rameau d'Olivier. Ils affirment par exemple, on l'a dit, qu'Afrin est encerclée, mais d'autres informations circulent sur les réseaux sociaux. Des journalistes à Afrin assurent que la ville n'est pas encore cernée. D'après ces mêmes médias turcs, les forces kurdes YPG empêcheraient les civils de partir pour s'en servir de boucliers humains. Là encore, impossible de vérifier l'information. Seule certitude, de nombreux civils essayent de quitter la ville d'Afrin. 2000 habitants seraient partis ces derniers jours en direction du sud-est. Ils se réfugient dans les zones contrôlées par le régime syrien ou essayent de rejoindre les régions du Rojava, le Kurdistan syrien, plus à l'est.
Franck Mathevon avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques, envoyés spéciaux de Radio France à la frontière turco-syrienne. En Italie, l'incertitude politique continue 9 jours après la victoire des partis populistes aux élections générales. Les deux grands vainqueurs du scrutin, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, cherchent des alliés pour gouverner. Leurs leaders respectifs, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, se sont adressés aujourd'hui aux partenaires européens de l'Italie. On retrouve à Rome notre correspondante Mathilde Imberti. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Mathilde, les deux leaders se sont exprimés de manière bien différente. Les 5 étoiles ont d'abord cherché à rassurer l'Europe.
Oui, et de manière très significative, le leader des 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui aspire à prendre la tête d'un gouvernement, a tenu une conférence de presse à l'Association de la presse étrangère à Rome, face à lui donc uniquement des journalistes non italiens. Il a insisté sur l'euro-compatibilité de son mouvement, plus question de sortir de l'euro, il l'a confirmé, place au dialogue, Luigi Di Maio.
On me demande souvent quel sera ton premier voyage en tant que président du Conseil. Les États-Unis, la Russie, non, ce sera Bruxelles. Il me semble, étant donné ce qui se passe, y compris le vote en Italie, que l'Europe a besoin de réfléchir et que les pays membres sont prêts à revoir certains paramètres. Moi, je n'ai aucun préjugé sur ceux qui gouvernent les autres pays et nous ne voulons absolument pas avoir affaire aux partis extrémistes européens.
Luigi Di Maio veut convaincre non seulement l'Europe, mais aussi en Italie les partis qui pourraient soutenir son gouvernement, qu'il ne s'agit pas de changer du tout au tout la politique extérieure du pays. Un message adressé aux parlementaires du Parti démocrate, le centre-gauche, c'est ce parti, en tout cas ces parlementaires, qui peuvent lui faire obtenir la majorité. Alors une opération séduction pour les 5 étoiles, tandis que Matteo Salvini, le leader de la Ligue, ce matin, lançait une charge particulièrement virulente contre l'Europe. C'était au Parlement européen à Strasbourg.
Grâce aux politiques européennes, l'Italie a creusé son déficit public comme jamais. La précarité est devenue la règle, l'âge de départ à la retraite a été repoussé, les ressources financières pour les communes, les hôpitaux, les forces de l'ordre ont diminué. Et enfin, nous avons perdu le contrôle de la moitié des grandes entreprises italiennes, désormais entre les mains d'étrangers. Nous, nous voulons faire exactement le contraire.
L'eurosceptique et nationaliste Matteo Salvini, allié de Marine Le Pen au Parlement européen. Il a d'ailleurs adressé ses félicitations à ses amis français, je cite, pour le nouvel élan apporté au Front National lors de son congrès à Lille dimanche.
Mathilde Imberti en direct de Rome, merci. En France, à Mayotte, le mouvement contre l'insécurité et l'immigration a pris une nouvelle ampleur aujourd'hui. Des milliers de personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Mamoudzou, le chef-lieu de l'île. Pendant ce temps-là, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, multiplie les rencontres sur place pour trouver une issue à la crise. Charlotte Lalanne, bonsoir.
Bonsoir.
La ministre devait rencontrer aujourd'hui les acteurs du mouvement de protestation, mais pour l'instant, Annick Girardin n'a pas réussi à calmer la colère des Mahorais.
Oui, le moins que l'on puisse dire, c'est que les négociations piétinent cet après-midi. Néanmoins, le collectif des citoyens, de l'intersyndicale et des élus a accepté un rendez-vous de principe avec Annick Girardin. Mais dès l'entrée de la préfecture, son porte-parole a prévenu, la ministre va nous servir de boîte aux lettres. Pourquoi ? Eh bien parce que pour ce collectif, la ministre des Outre-mer n'est pas légitime. Dans un courrier, il demande donc au gouvernement d'envoyer un véritable interlocuteur capable d'engager le gouvernement sur les problèmes d'insécurité et de démocratie. développement de l'île. Hier, le collectif avait refusé de rencontrer Annick Girardin. Ce matin, 200 à 300 manifestants ont même fait irruption dans l'hémicycle du conseil départemental à Mamoudzou pour dénoncer justement quelques élus qui, eux, auraient accepté de discuter avec la ministre. Événement absolument regrettable, a tranché le porte-parole du collectif des citoyens. C'est dire si la situation est tendue avec ces divisions qui commencent à apparaître au sein même du mouvement. Le collectif s'est finalement rendu à la préfecture à Dzaoudzi à 16h30, 14h30 heure de Paris. Au départ, je vous le disais, simplement pour remettre une lettre à la ministre, mais il semblerait qu'ils aient accepté finalement de se mettre autour de la table. La réunion qui se poursuit à l'heure où l'on se parle depuis plus de 3 heures. D'après un membre de l'intersyndicale sur place, joint par SMS, il négocie actuellement sur les principales revendications, des mesures d'urgence donc pour bloquer l'immigration, rétablir la sécurité sur l'île et enfin normaliser, dit-il, la vie des Mahorais.
Charlotte Lalanne, merci. La ministre des Outre-mer sur la sellette a reçu ce matin le soutien de son collègue Benjamin Griveaux. Annick Girardin a toute la légitimité et toute l'attitude pour intervenir dans la crise mahoraise. Voilà ce qu'a expliqué le porte-parole du gouvernement. Le procès dit du groupe de Tarnac s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. 8 militants de l'ultra-gauche sont jugés pour la dégradation d'une ligne TGV en 2008. À l'époque, le gouvernement Sarkozy avait évoqué un sabotage, mais depuis, la Cour de cassation a écarté la qualification terroriste dans cette affaire. Les 8 militants vivaient en communauté à Tarnac, en Corrèze. Parmi les prévenus, Julien Coupa, théoricien du chaos libertaire, et sa compagne Hildune Lévy. Florence Sturm, bonsoir.
Une première audience qui a effectivement surtout contribué à planter le décor entre un public acquis à la cause du groupe de Tarnac, des militants qui protestent haut et fort de ne pouvoir entrer tous dans la salle d'audience faute de place suffisante, et des prévenus qui viennent tour à tour décliner leur identité à la barre, avec bien sûr le plus attendu de tous, Julien Coupa, sourire aux lèvres et bras croisés, qui balance le buste de gauche à droite, le nez en l'air, sans regarder la présidente du tribunal. Petite provocation supplémentaire et rappel à l'ordre de la magistrate, on ne mange pas dans une salle d'audience. Pas même une petite barre de céréales, lance le prévenu. Si vous avez besoin d'une pause pour le goûter, on verra, mais le tribunal ne fournit pas les barres de céréales. D'emblée, les avocats de la défense, eux, attaquent sur deux terrains. Le transport sur les lieux du sabotage à Duisy, en Seine-et-Marne, indispensable pour comprendre le fameux PV-104 sur lequel repose tout le dossier. Le procès verbal que la défense estime être un faux, et j'y suis allé récemment, explique l'avocat Jérémy Assou. Rien n'a changé, c'est l'avantage des champs de betteraves. Le procureur est d'accord pour ce transport sur les lieux, convaincu qu'il permettra de démontrer le contraire. Il pourrait avoir lieu le 23 mars prochain et le tribunal délibère par ailleurs en ce moment sur l'anonymisation des témoins. Épineuse question qui rattrape le fond de l'affaire puisque les policiers en question sont ceux accusés d'avoir monté le dossier en épingle. Michel Alliomari, alors ministre de l'Intérieur, et l'ancien procureur de Paris, Jean-Claude Marin, ont quant à eux fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles pour venir déposer.
Florence Turme depuis le palais de justice de Paris, merci. Une opération antiterroriste ce matin dans la région grenobloise. 5 personnes, 4 hommes et une femme, ont été arrêtés dans un coup de filet visant une filière djihadiste. Tous sont originaires de la région. Ils sont soupçonnés d'être en lien avec 2 djihadistes qui se trouveraient encore dans la zone irako-syrienne. Les 5 suspects ont été placés en garde à vue par la sous-direction antiterroriste. Météo France n'échappe pas aux suppressions d'emplois. Près de 500 postes vont être supprimés d'ici à 2022 sur un effectif d'un peu plus de 3000, soit plus de 15% du personnel. Annabelle Grelier, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
À l'heure des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents, les syndicats de Météo France s'inquiètent de ne pouvoir poursuivre leur mission.
Oui, Météo France a déjà perdu, il faut savoir, un quart de ses effectifs et la moitié de ses implantations territoriales ces 10 dernières années. Des départs à la retraite non remplacés dans le cadre de la RGPP de Nicolas Sarkozy, la révision générale de la politique publique, puis la MAP de François Hollande, la modernisation de l'action publique et maintenant l'action publique 2022 d'Emmanuel Macron. Pour Météo France, ce sera près de 100 postes supprimés dès cette année pour atteindre les 500 en 2022. Alors comment établir des bulletins météo fiables s'il n'y a plus d'analystes, s'inquiètent les syndicats. Les fermetures annoncées d'antennes locales ont déjà entraîné plusieurs mouvements de grève depuis 2017. Par exemple, les agents des services opérationnels de Météo France, Auvergne-Rhône-Alpes, protestent manifesté la semaine dernière contre la fermeture annoncée des centres d'Aurillac, Clermont-Ferrand, Montélimar, Bourg-Saint-Maurice et Chamonix. Le projet est de tout concentrer sur Lyon et Grenoble. Des décisions qui ont forcément un impact sur la sécurité publique et la précision des prévisions météo, estiment les syndicats. En effet, établissement public, Météo France fournit des prévisions météo, des données climatiques, des outils d'aide à la décision. Et ces informations permettent à de nombreux acteurs d'agir en conséquence dans le domaine des transports, de l'agriculture, du tourisme, du bâtiment ou encore de l'énergie. À la direction de Météo France, on assure que l'observation humaine peut être remplacée par la machine, mettant en avant les progrès technologiques et l'embauche de 70 ingénieurs dès 2018. Argument qui n'est pas de nature à calmer la colère des prévisionnistes en chair et en os qui protesteront, eux, dans la rue le 22 mars prochain.
Annabelle Grolier, merci. Météo France qui nous annonce pour demain une journée pluvieuse sur une large moitié ouest de la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne. À l'est, le ciel restera gris et quelques gouttes seront possibles. Le soleil devrait s'imposer sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales sont en légère baisse de 0 à 7 degrés en général. Les maximales seront douces de 11 à 19 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.